La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Bonjour à tous. Pour continuer donc en théologie morale sociale, vous avez bien compris qu'il comprend la doctrine sociale de l'Église, je voudrais insister sur la charité. Alors, c'est ce que nous mettrons en évidence tout au long de ces interviews. Donc, la morale sociale manifeste de la charité. Qu'est-ce qu'à dire sinon que la charité est appelée à soutenir toute action posée dans la foi ? Quel en est le cœur, le centre, l'âme, le poumon de la vie morale, la condition de sa réalité, de sa droiture, et que la charité tient dans l'espérance de l'avènement de ce monde meilleur que nous appelons le royaume. Donc la charité est bien le point de départ de notre réflexion. Énoncer que la charité est le cœur de la vie chrétienne est bien sûr très évident, même si aujourd'hui le mot de charité résonne mal en bien des lieux, y compris chrétiens, comme un tant soit peu anachronique ou désuet. Certes, les deux grandes encycliques de Benoît XVI, Deus Caritas Est et Caritas in Veritate, ont récemment tenté d'infléchir ce propos et de redorer le blason de ce vocable de charité. Il n'empêche que faire la charité n'a pas bonne presse, souvent assimilé à un devoir hypocritement assumé, une manière d'acheter son salut et de se dérober à bon compte de l'exigence de justice. Pourtant, celle-ci ne peut ne pas accompagner la charité, sauf à la dénaturer. La charité sans la justice, ce n'est pas la charité. C'est pourquoi, face à ces difficultés, le mot de charité se trouve fréquemment supplanté par celui d'amour, voire les expressions amour-charité ou amour de charité. Regardons un petit peu le vocabulaire de la charité. La source grecque, eros, en fait il y a deux mots qui définissent en grec la charité. Il y a eros qui incarne l'attrait de l'autre jusque dans une connotation sexuelle et philia orientant vers l'affection d'une relation réciproque. Et puis il y a l'agapé, dans son acception humaine, signifie le choix de l'autre en tant que membre d'une même humanité. C'est ce terme que la théologie utilisera pour parler de l'amour de Dieu. Reprenant par ce terme, celui hébreu de Zedaka, mot au sens large recouvrant aussi bien la justice que la droiture ou l'humanité. La caritas, donc, est la traduction de l'agapé et vient en droite ligne de la grâce qui a trouvé une forme distincte de l'amour jusqu'à ce que, cependant, qu'elle ne soit disqualifiée par la condescendance qu'elle porte. Il convient en tout cas de garder à l'esprit l'équivalence entre amour et charité. D'ailleurs, Benoît XVI, dans Deus Caritas Est, accorde justement un long moment de son argumentation à préciser et déployer les divers registres de l'amour. L'éros est surtout sensuel, ascendant, et le moment de l'agapé s'insère en lui. Le pape François aussi commence à apporter sa touche personnelle et propre à la question, sur le registre de ce qu'il est convenu de nommer la charité sociale. Le pape n'a de cesse de mettre au premier plan le paradigme de la place des pauvres dans l'Église et la société. Il en fait même un critère insistant de vérification de la justesse de la vie de foi. Il corrèle la charité à la réalisation de la justice, qui commence par la reconnaissance sociale de tout être humain, cristallisée dans la figure du pauvre. La réalisation de la justice, c'est bien s'engager pour changer les personnes et les structures sociales ou économiques. La théologie morale sociale se situe bien évidemment dans la trace ouverte par Vatican II, qui prend acte de la sclérose qui emprunt la vie morale devenue un carcan d'obligations. Vatican II réfléchit la charité comme présente au cœur de l'appel à la sainteté et élargit cet appel à l'universel en tenant ensemble Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Comment entendre la charité aujourd'hui ? La charité comme amour de l'autre met en œuvre une fraternité qui suppose la reconnaissance en l'autre d'un autre de moi-même. Elle est de la sorte engendrée par le mouvement d'altérité qui renonce à soumettre l'autre, pas plus à me soumettre à lui, mais qui porte à me tenir envers lui dans une attitude de réciprocité. Toutefois, cette réciprocité fait face à l'inégalité des conditions et situations qui fait obligation à l'homme juste de porter secours aux plus pauvres, aux plus démunis, sans exiger de contrepartie a priori. La réciprocité, la mutualité en deviennent une grâce. Ainsi, la charité oriente vers un partenariat, une fraternité et vers la justice qui est en première instance la volonté que chacun jouisse de sa pleine dignité. Celle-ci se concrétise dans la reconnaissance et la mise en œuvre des droits humains, personnels et sociaux. Entendons bien, la charité entraîne dans son sillage non pas la pitié ou la commisération, encore que l'indignation soit un des ressorts de la prise de conscience de l'injustice, comme le montre Paul Ricoeur en philosophe. Pas seulement non plus un élan de générosité passager et inefficace, mais bien la justice et l'engagement social. Cette justice sociale rend particulièrement attentif à celui qui en a le plus besoin, le plus démuni de droit, le sans-voix, l'exclu, dont les figures sont multiples dans toutes les sociétés, et que la Bible signifie par la triple réalité de la veuve, l'étranger et l'orphelin. Bien sûr, il serait inopportun et inexact de limiter la charité à la dimension sociale, qui incarne l'altruisme, même si elle en fait pleinement partie. Elle revêt une coloration infiniment intérieure qui fonde sa concrétisation. En foi chrétienne, la charité envers autrui est reçue comme un fruit de l'amour qui produit des effets. Elle est le lieu de la réception de la grâce divine. Bien que la formulation demeure une question en soi, l'amour en christianisme se donne à entendre comme un commandement, un impératif, une injonction reliée à l'obtention de la vie éternelle. Ce commandement nouveau a en même temps comme caractéristique d'être ancien, c'est-à-dire reçu de la tradition juive. Jésus répond au légiste qui l'interroge sur ce qui est juste en vue de la vie éternelle, qu'il convient d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Le parcours de Jean affine la perception en montrant comment ce commandement est lié à la personne et à l'action historique de Jésus. Le passage de Jean 13:1, avec la posture du lavement des pieds, relie avec force le geste de service inouï effectué par Jésus, se faisant esclave de ses disciples, au mode de participation qui unit ces derniers à leur Seigneur. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai dit pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. » Le tout culminant dans l'expression « Je vous donne un commandement nouveau comme je vous ai aimé. » Reste à préciser la différence entre le commandement dans la première et la seconde alliance. Si le judaïsme s'organise autour de la Torah, c'est autour de Jésus reconnu comme fils du Père que se formule la foi chrétienne, autour du Christ qui accomplit le règne de Dieu en lui-même, autour du Seigneur revenu de la mort. Notre relation à Dieu se trouve liée à notre relation à l'autre en termes d'attention, de soin. Et ceci, nous l'apprenons de Jésus de Nazareth lui-même, plein d'attention exercée au souci de l'autre et prenant soin de l'homme blessé. Évoquons également l'histoire du bon samaritain qui considère la manière d'agir. Forte est la critique de Jésus envers le légiste et le prêtre qui passent à distance de l'homme blessé, dépouillé, laissé pour mort. Ils n'ont pas reconnu l'urgence première de porter secours à l'autre. Jésus valorise le geste du Samaritain qui a su se faire proche. Le prochain, c'est celui vers qui l'amour me porte. Sans considération pour son statut, sa religion et son apparence. La tradition théologique et spirituelle a reconnu dans le Christ le Samaritain de cette parabole. La charité dans l'enseignement social de l'Église prend sa source donc dans la Bible et la vie du Christ. Mais qu'est-ce que la charité ? Alors Henri de Lubac disait « Engagement social et foi chrétienne, cela devrait être un pléonasme ». Nous verrons donc la prochaine fois l'histoire, enfin le début de l'histoire de la doctrine sociale de l'Église.